Voilà, nous sommes heureux d'être devant le Seigneur. Nous prenons sa parole, la Bible, dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11, verset 1. L'Épître aux Hébreux, au chapitre 11, verset 1. Je lis ce qui suit. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je relis. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Le thème du message est le suivant. La foi est une ferme assurance. Qu'est-ce que la foi? Comment peut-on savoir qu'une personne croit en Dieu? Une personne a vraiment la foi. C'est une personne qui croit, non pas simplement, mais qui croit d'une manière ferme. Paul a pu dire ceci dans 2 Timothée 4. Verset 7, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Vous savez que notre foi, elle m'a mené par beaucoup de choses. Et nous connaissons beaucoup de personnes qui ont commencé avec Dieu, qui étaient des bons croyants, mais leur foi a pris un coup. Parce qu'à force d'avoir trop de problèmes, trop de difficultés, ils ont fini par abandonner la foi. Or, quelqu'un qui croit doit croire fermement et non pas d'une manière, une foi qui tangue, qui va de gauche à droite, une foi qui n'est pas solide, une foi qui n'est pas ferme en Dieu. Non. Il faut croire fermement au Seigneur. Pour ceci, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. Le bon combat ou le combat qu'il faut que nous menions en tant que croyants, c'est de tout faire pour garder notre foi jusqu'au bout. Lorsque Jésus reviendra des cieux pour prendre son église, il ne va pas prendre toute l'église, mais des personnes qui ont su garder la foi jusqu'au bout sans renoncer à ce qu'ils ont entendu, à ce qu'ils ont cru, sans renoncer à la voix du Seigneur. Il y a dans la Bible quelques exemples. Nous prenons par exemple dans Jean chapitre 6, des personnes ont cru au Seigneur, mais quelque temps après, ils ne croient plus au Seigneur. Et Jésus demande à Pierre et aux autres apôtres, et vous, vous n'avez pas envie d'aller comme, de retourner comme les autres? Il dit, Pierre a dit ceci, nous avons connu que tu es le Fils de Dieu, que tu as les paroles de la vie éternelle. Vous voyez donc, il peut y avoir deux sortes de personnes qui croient au départ et à la fin, il y en a qui se retirent de la foi, qui se retirent de Dieu, mais il y en a qui continuent parce qu'ils ont écouté, ils ont compris, ils ont accepté. Ils ont connu le Seigneur d'une manière expérimentale et leur vie continue avec le Seigneur. Dans Daniel, au chapitre 11, verset 32, il a dit que certains vont succomber. Ils ne vont pas continuer avec Dieu parce qu'il y a des persécutions, des difficultés. Mais il a dit ceci, que ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Ceux qui connaîtront leur Dieu. Il est important de savoir que il est bon que nous soyons ensemble, nous écoutons, nous entendons. Mais il est plus important que chacun ait une communion spirituelle personnelle avec Dieu. C'est connaître Dieu d'une manière personnelle. Comme l'a dit quelqu'un, Dieu a des enfants, mais n'a pas des petits-enfants. Ça veut dire que chacun doit être en relation personnelle avec Dieu. On ne croit pas en Dieu par procuration, mais on croit en Dieu parce que nous l'avons entendu nous-mêmes et alors on a cru qu'il est vraiment le sauveur du monde. Comme on le voit dans Jean chapitre 4, la femme samaritaine reçoit le Seigneur dans son cœur, elle rend témoignage à ses contemporains, à ses, disons, aux villageois de son village, et qui veulent aussi entendre par le Seigneur. Mais quand elle a rendu témoignage, ils ont cru. Mais quand ils ont entendu le Seigneur Jésus, eux-mêmes, ils ont dit, mais nous croyons qu'il est le Seigneur du monde, non pas parce qu'il nous a dit, mais parce que nous l'avons entendu nous-mêmes. Il est important que on ne soit pas des personnes qui ne font qu'entendre ce que nous disons en tant que prédicateurs, mais des gens après, dans la semaine ou dans le mois, qui prennent le temps eux-mêmes de savourer la Bible, de la lire, de la comprendre et de laisser la Bible agir dans leur vie. Alors en ce moment, tu as une commission personnelle qui n'a pas été donnée par quelqu'un d'autre, mais tu as lu et la Bible a créé en toi une pleine conviction qu'elle est vraie. Il y a des gens qui rendent témoignage à d'autres personnes et qu'il y a des questions qui leur sont un peu difficiles à répondre de la Bible. Ils disent, moi je ne suis pas trop allé trop loin dans la connaissance biblique, mais je vais demander à mon pasteur. Non, tu n'as pas demandé à ton pasteur, il faut faire en sorte que tu puisses connaître toi-même et tu puisses expliquer aux autres qui ne connaissent pas. Il est important que chacun sache que sa foi ne doit pas être une foi, qu'une foi qui se manifeste un jour et un autre jour qui disparaît. Nous connaissons l'histoire de Job au chapitre 1 et 2 de son livre, qui a connu dans sa vie de foi avec Dieu beaucoup, beaucoup de problèmes. Il a connu la perte de tous ses biens matériels. Il a connu la perte de tous ses enfants, il a connu donc la maladie incurable dans sa vie, et malgré tout cela, Dieu dit, en parlant de Job, à Satan, qui demeure ferme dans son intégrité. Donc, notre vie chrétienne peut connaître toutes sortes de situations difficiles, mais il faut garder toujours la foi dans le Seigneur. On ne vient pas à Dieu pour ne pas souffrir, on ne vient pas à Dieu pour ne pas avoir des problèmes. Bien au contraire, quelqu'un a dit ceci, que pour être chrétien, il faut être courageux. Il faut être courageux. Parce que ce n'est pas facile très souvent. Donc quelqu'un qui croit en Dieu va avoir, comme l'a dit le Seigneur dans Jean 16, 33, des tribulations, des souffrances terribles, mais dit le Seigneur, j'ai vaincu le monde. Il est important que nous gardions la foi, même si les choses se passent très mal. Lorsque, après les souffrances, disons, matérielles, sentimentales, et que Satan revient à la secousse, me dit que, mais si Job continue quand même de demeurer ferme dans la foi, c'est parce que pour un homme, il peut tout perdre. Mais s'il est touché dans sa santé, c'est sûr que là, il va t'abandonner. Et voici que Satan va encore accabler Job d'une maladie. Et malgré cela, il demeure encore ferme dans sa foi. Il rend gloire à Dieu. Il ne dit rien d'injuste à Dieu. Au contraire, il loue Dieu malgré sa souffrance. Il adore le Seigneur. Et sa femme est étonnée, elle dit, mais comment? Malgré tout ce dont nous souffrons, tu continues encore de demeurer dans la foi, de t'attacher à Dieu. Mais ce n'est pas possible. Mais quand nous lisons l'histoire de Job, on voit que sa foi a connu une fin heureuse. Parce qu'il est resté très attaché au Seigneur malgré tout. Il est important que nous sachions que ce n'est pas notre foi que nous pouvons hériter le salut de Dieu, aller dans le ciel. Il ne faut pas la perdre. Il faut la garder comme un trésor, la garder jalousement. Il y a un autre texte qui nous dit ceci dans 2 Timothée, chapitre 1, verset 12, pour ceci, « Je sais en qui j'ai cru. » Est-ce que toi, tu peux dire « Je sais en qui j'ai cru. » Est-ce que tu as une conviction que tu peux dire « Je connais d'une manière personnelle le Seigneur. » Je vis avec Dieu, je le connais d'une manière personnelle. Et Paul peut déclarer à la face de tout le monde entier que il sait en qui il a cru. Il a la certitude que son Seigneur est vivant et qu'il est vrai. Et à cause de cela, il a tellement souffert, mais jusqu'à la fin, il est resté attaché au Seigneur Dieu. Dans Jacques, au chapitre 1, on va le lire, versets 23 à 25. Quelqu'un le lit pour nous? Jacques, chapitre 1, versets 23 à 25.
Car si quelqu'un écoute la parole que l'on a, mais pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans son miroir son visage naturel et qui, après avoir regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un outil oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité.
Voilà. Il a dit au verset 22, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. Quelqu'un qui a une foi qui est solide, c'est une personne qui n'est pas oublieuse de la parole de Dieu qu'il entend ou qu'il lit. C'est-à-dire, lorsqu'il entend la parole, il la garde dans son cœur. Il vit sur cette parole. Lorsqu'il entend la parole, il agit en fonction de cette parole. Lorsqu'il entend la parole, il essaie, non pas de la lire simplement ou de l'écouter simplement, mais ensuite, il cherche surtout à faire en sorte que sa vie soit conforme à la parole de Dieu. Il y a des gens qui écoutent la parole, non pas pour elles-mêmes, mais pour les autres. Il y en a qui disent, oh, si telle personne était là, mais ce serait une parole pour elle. Non, Dieu ne parle pas aux absents, il parle aux présents. Il est important que chacun de nous soyons des auditeurs, non pas oublieux, mais des gens qui entendent et retiennent la parole, et alors notre foi sera alors solide. Il y a un autre texte, nous voyons deux autres textes pour terminer, dans Matthieu chapitre 13. Je vous lis le passage, Matthieu chapitre 13. Le verset, excusez-moi, voilà, le verset 20. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pieux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Une première étape. Quelqu'un entend la parole et la parole lui fait du bien à son cœur. Elle la reçoit avec joie. Ensuite, elle est baptisée. Elle est la personne une chrétienne épanouie, heureuse. Mais il y a un mais, il a dit verset 21. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il croit pour un temps. Il croit pour un temps. Non pas pour toujours. Il y a des chrétiens qui sont des chrétiens saisonniers. Comme c'est un fruit, comme la saison, l'hiver, l'automne, l'été, ainsi de suite. Donc, c'est des chrétiens saisonniers qui croient pour un temps et non pas pour toujours. Leur foi n'est pas stable, mais instable. C'est variable. Ça peut être chaud, ça peut être froid, mais ça n'a jamais la même température. Pourquoi? Parce qu'ils ont reçu la parole, mais pas de la bonne manière. Ils ont reçu la parole, mais ils n'ont pas entretenu ce qu'ils ont entendu et ce qu'ils ont reçu. Ils n'ont pas entretenu cette parole-là. Ils l'ont négligée. Il a dit ceci, ils croient un temps, et dès que survient une tribulation, une persécution, à cause de la parole, ils trouvent une occasion de chute, ils abandonnent. Pierre et les autres, c'est pour Pierre dans Marc chapitre 14, Jésus a dit ceci, que vous allez me renier, vous allez m'abandonner. Pierre a dit non, mais si tous t'abandonnent, moi je ne vais jamais t'abandonner. Je suis prêt à mourir avec toi. Et il a dit que tous les autres ont dit la même chose, que nous sommes prêts à te suivre. Mais ils ne comprennent pas que la vie chrétienne est difficile, qu'il y a un combat à mener. Donc, il dit, nous sommes prêts à te suivre, nous sommes prêts à mourir avec toi. Mais ce n'était pas encore arrivé à la mort. Quand Jésus a été arrêté, ils l'ont tous abandonné. Il y a un même qui a fui en laissant son habit dans la main des gens, des ennemis. Il s'est enfui tout nu. Il ne veut être tout nu que de mourir. Donc ça veut dire quoi? Voici des gens qui proclament leur foi en Dieu, qui proclament leur foi dans le Seigneur, dans sa parole, dans sa vie. Mais quand il y a eu des difficultés, ils ont tous disparu. Ils l'ont laissé tout seul. Et Pierre est parti plus loin encore. Il a renié le Seigneur devant une servante en disant que je ne connais pas, je ne connais pas. Sa foi n'était pas ferme dans le Seigneur parce que il n'a pas dans son cœur une racine qui va en profondeur la connaissance de Dieu. Lorsque j'étais en Afrique, dans la maison, il y a quelquefois des cafards. Et puis, le matin, je me réveille, je vois des fourmis qui transportent un gros cafard. Je me demande comment des fourmis peuvent transporter un gros cafard. Mais après, en observant de plus près, j'ai vu que toute la nuit, ces fourmis ont fait un travail de destruction ou de ça à l'intérieur du cafard. Donc, ils ont vidé tout son intérieur, et comme tout son intérieur a été vidé, ils ont pu alors le transporter facilement. Il y a des gens que le diable est en train de travailler à l'intérieur, détruire tout ce qui est foi, tout ce qui est connaissant de Dieu, tout ce qui est confiance en Dieu. Il détruit tout cela dans leur cœur, et un jour, ils tombent. On dit, mais comment ce frère ou cette soeur qui était si fidèle, si engagée, n'a pas pu continuer? Mais en fait, dans le secret, sa foi a été tellement attaquée, malmenée, que son cœur n'était plus vraiment attaché dans le Seigneur. Chers frères et sœurs, nous sommes à la fin des temps. Il est important que chacun sache que la foi que nous avons, on a un combat à mener pour la garder. La foi dans le Seigneur. Crois que Jésus est vrai, qu'il est vivant. C'est qu'en Europe, à cause de tout ce que les gens disent à la télévision, les gens écrivent contre Dieu. À un moment donné, on ne sait pas si Dieu existe ou bien n'existe pas. Vous voyez, on a une tendance à balancer entre croire ou ne pas croire. Rester attaché à Dieu, ne pas rester attaché à Dieu. Or, le plus important à l'heure actuelle, que toi qui es chrétien, ta foi soit solide et inébranlable. Une dernière chose à dire, et puis je m'arrête là. Je conclue plutôt. Dans Matthieu chapitre 7, le verset 24 à 25 et 26 à 27. Je vous suis de mémoire, il est parlé de 200 de maisons. Apparemment, quand on regarde ces maisons qui sont construites, elles n'ont pas des aspects qui diffèrent. Ces maisons étaient bien construites, apparemment. Mais tant qu'il n'y a pas de problème, on dit que ces maisons sont de très belles maisons dans lesquelles on veut habiter. Donc, il y a des chrétiens qui sont très bien dans leur vie chrétienne, tant qu'il n'y a pas de problème, tant qu'il n'y a pas de situation difficile, mais ce sont des gens qui aiment Dieu. Mais souvent, quand ça arrive comme on le voit dans le cas de ces deux maisons, il est dit ceci, il y avait la tempête, l'inondation, les vents violents qui ont frappé contre ces maisons. L'une est tombée et l'autre n'est pas tombée. Pourtant, ces deux maisons ont connu les mêmes situations difficiles, ont connu les mêmes causes, mais les effets ont été différents. Il y a une maison qui tombe et le reste debout. Et le Seigneur va plus loin pour dire, ça dépend de la fondation de la maison en question. L'une était bâtie sur le roc, sur un rocher, donc avec une fondation solide, mais l'autre était bâtie sur du sable. Il y a des gens, la vie chrétienne, ça se lève rapidement. Et puis ça disparaît un coup. Mais il y en a qui prend le temps d'évoluer tout doucement. On pense qu'eux, ils ne vont pas assez vite, mais il y a un travail en profondeur que le Saint-Esprit fait dans leur vie, jusqu'à ce qu'ils deviennent des hommes. Quand on les regarde, on dit vraiment, ça c'est un homme de Dieu, une femme de Dieu. Il y a des gens qui sont trop zélés, qui vont trop vite dans la foi, mais après aussi qui se refroidissent trop vite. Il faut prendre le temps de croire. Il faut prendre le temps de lire la Bible. Il faut prendre le temps de chercher le Seigneur. Il faut prendre le temps de crier. Il faut prendre le temps d'écouter aussi ce que Dieu dit. Il faut prendre le temps, en un mot, de construire ta vie chrétienne afin que ta vie devienne une vie solide qui ne sera plus ébranlée par quoi que ce soit, par qui que ce soit, mais que tu demeures assez solide pour que Dieu te bénisse en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances, afin que de partout où tu peux aller, que tu gardes toujours la foi du Seigneur. La foi ne dépend pas du lieu où nous sommes, mais la foi, quel que soit où nous pouvons être, quoi que nous fassions, il faut que notre foi demeure ferme dans le Seigneur. Crois toujours en sa parole, crois en ses promesses. On avait un pasteur du Burkina qui était venu en Europe pour faire de la théologie, mais il s'est orienté en philosophie. Et puis, pendant les études de philosophie, ils ont parlé que Dieu n'existe pas, ils ont fait des démonstrations. Et quand le pasteur est revenu dans notre pays, il ne sait plus ce qu'il faut croire. Est-ce que Dieu existe? Est-ce que Dieu n'existe pas? Il était troublé dans son esprit. Vous voyez, quelqu'un qui a une foi ferme, aucune parole extérieure ne peut lui enlever ce qu'il a dans le cœur. Aucun environnement hostile ne peut lui faire croire à autre chose que ce qu'il a cru dès le départ, parce qu'il a un fondement, il a une base solide, une base très solide. Mais quelqu'un qui n'a pas un fondement, qui est bâti sur la personne de Jésus, il ne peut pas s'en sortir. Il y a des gens, je connais un jeune qui venait à l'église parce qu'il s'est dit que les femmes chrétiennes, les filles chrétiennes sont très sérieuses. Mais lui venait à l'église à cause des filles, il voulait marier une fille qui est chrétienne. Vous voyez donc, il y a des gens qui viennent, qui se donnent au Seigneur pour des, comment on peut appeler ça, pour des causes, des raisons qui ne sont pas bibliques. C'est la personne qui les intéresse, ce n'est pas Jésus, mais c'est plutôt autre chose dans l'Église. Et quand il n'y a pas ces choses qui l'ont fait venir, alors il n'a pas vraiment la foi. Pas la foi est fondée sur une personne, la personne de Jésus. Si c'est sur autre chose, ça ne peut jamais marcher. Que Dieu bénisse. Et que nous aide tous à avoir une foi ferme. Parce que quand Jésus reviendra, ce qu'il va regarder en nous, c'est est-ce que ta foi demeure, ta foi a demeuré, ou bien ta foi a disparu. Permettons que si le Seigneur revienne, qu'il trouve en nous encore dans notre cœur une foi en sa personne, une foi en sa parole, une foi en ses promesses. Voilà. Et quand Dieu voit cela en nous, il est heureux de nous prendre pour nous faire asseoir avec lui dans le ciel de gloire. Que Dieu bénisse sa parole et qu'on espère que dans 20 ans, dans 30 ans, on te retrouvera toujours dans la foi et non pas ailleurs. Que Dieu te bénisse et qu'il fortifie ta foi, qu'il rend ta foi inébranlable. Amen. Que Dieu bénisse. Seigneur, nous te bénissons. C'est vrai que nous sommes dans un combat difficile. Nos fois connaît toutes sortes d'attaques, de l'intérieur, de l'extérieur. Mais nos désirs, c'est nous attacher à ta personne, nous attacher à ta parole, afin que nous demeurions dans tout ce qui peut nous arriver, dans tout ce que nous pouvons entendre de négatif, que nous puissions demeurer toujours confiants en ta personne, confiants en tes promesses, ô Dieu. Béni sois-tu, Seigneur, de ce que tu gardes en nous ta parole, en ton nom Jésus. Amen.
Pierre, coupe pas. Je veux juste rajouter quelque chose.
Merci. Amen. Hein. Je crois qu'on peut dire amen pour la parole que le pasteur nous a apportée ce matin. Amen. Amen. Et je voulais juste rajouter un petit quelque chose, parce que c'est vrai que je pense que le Seigneur nous interpelle ce matin. Je crois que c'est lui qui nous invitait aussi au travers de la Sainte-Seine, comme je vous l'avais partagé, de faire un pas dans sa direction, un pas d'engagement, un pas dans la sanctification. Et comme disait le prophète Daniel en son temps, ceux qui connaîtront Dieu agiront avec fermeté. Si nous connaissons Dieu, alors agissons avec fermeté, disons non au péché, demandons que le Seigneur nous donne sa puissance pour vaincre le péché, demandons que le Seigneur nous donne sa sagesse aussi, parce que parfois il faut de la sagesse pour vaincre le péché, parfois il faut un renouvellement de l'intelligence pour qu'on puisse discerner la pensée du Seigneur et vivre en nouveauté de vie. Je lis encore là, dans la deuxième épître aux Corinthiens, deux versets, 2 Corinthiens 5, les versets 20 et 21. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait pour nous. Nous vous en supplions au nom du Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Alors ce matin, j'apprends qu'on a un magistrat parmi nous. Hein? Merci Seigneur pour des hommes et des femmes qui se lèvent dans les fonctions de la justice, on en a besoin. Mais on a aussi plein d'ambassadeurs. Nous sommes ambassadeurs du Christ. Et en lui, nous devenons justice de Dieu. C'est quand même pas rien. Imaginons-nous qu'aujourd'hui, en Jésus-Christ, nous sommes justice de Dieu. Ce n'est pas un petit engagement que le Seigneur nous demande, c'est quelque chose de sérieux. Et si nous voulons être véritablement ambassadeurs du Christ, nous devons être vêtus de la justice céleste. Amen. Si tu es ambassadeur dans un pays, tu représentes ton pays, tu représentes ton État, tu représentes le fonctionnement de ce pays, le droit de ce pays, tu vas fonctionner selon une certaine ligne. Et nous sommes ambassadeurs du royaume de Dieu. Pas seulement un État, mais d'un royaume. Et nous devons, en tant qu'ambassadeurs du Christ, représenter ce royaume et être revêtus de la justice céleste, de la justice divine. C'est pas rien. C'est un sacré engagement que Dieu nous demande. Mais s'il nous le demande, et s'il nous le déclare même dans ce verset de 2 Corinthiens 5, verset 21, c'est qu'il a le pouvoir de le faire en nous. Alléluia! Que nous puissions être justice de Dieu, que nous puissions rester proches du Seigneur, et comme il nous a été partagé, que nous puissions rester dans la foi, afin que cette fonction d'ambassadeur, elle puisse être active en chacun d'entre nous. Amen. Merci au pasteur pour le partage de cette parole ce matin. Et j'aurai quelques petites annonces, mais avant ça, je donne la parole à Pierre, qui a des nouvelles de Haïti. Hein.
Alors voilà, je vais juste vous faire un compte rendu, disons, de ce que j'ai reçu ce matin.